Bonsoir. Une nouvelle charge médiatique contre Donald Trump. Le journaliste d'investigation Bob Woodward publie un livre au vitriol contre le président américain qui ferait preuve d'une incompétence rare. La correspondance de Grégory Phillips à Washington dans un instant. Nouveau rebondissement dans l'affaire Skripal. Le Royaume-Uni émet un mandat d'arrêt contre deux Russes soupçonnés d'être impliqués dans la tentative d'empoisonnement de l'ex-espion Sergei Skripal et de sa fille Yulia. Moscou dément toute implication, nous dira Claude Bruyot. Comment mettre l'économie au service de la lutte contre le réchauffement climatique? Nous poserons la question à notre invitée, Laurence Tubiana, présidente de la Fondation européenne pour le climat. C'est un livre accablant pour Donald Trump. Fear, la peur, sortira dans quelques jours aux États-Unis. Son auteur, Bob Woodward, est une star du journalisme d'investigation. C'est lui qui, en 1972, avait révélé le scandale du Watergate, qui allait contraindre à la démission l'ancien président Richard Nixon. Bob Woodward a-t-il le même objectif pour Donald Trump? En tout cas, son livre décrit une Maison Blanche plongée dans le chaos, depuis qu'elle est dirigée par un homme qualifié d'idiot et d'abruti par ses propres collaborateurs. Grégory Phillips, c'est le Washington Post, l'ancien employeur de Bob Woodward, qui publie les bonnes feuilles de Fear.
Il y a cet épisode, relaté par Bob Woodward. On est en avril, l'an passé. Le régime syrien vient de procéder à une attaque chimique contre son peuple qui a fait 87 morts. Trump appelle alors son secrétaire à la défense, le général Mattis, et lui ordonne « on va tuer Bachar al-Assad ». Allons-y, on leur rentre dedans et on les bute. Mattis fait semblant d'obtempérer puis explique à ses adjoints qu'ils vont procéder autrement, de manière, aurait-il dit, plus mesurée. Finalement, quelques jours plus tard, les États-Unis procéderont à des frappes militaires contre une base syrienne. Il y a dans ce livre quantité d'anecdotes, comme la fois où le président Trump explique à ses avocats qu'il veut témoigner devant le procureur Mueller dans le cadre de l'enquête russe. Si vous faites ça, vous terminerez en combinaison orange, celle des prisonniers, est obligé de lui dire son conseiller juridique. Et puis enfin, il y a les termes employés par ceux qui travaillent auprès de Trump. L'ancien chef de cabinet, Priebus, décrit la chambre du président comme l'atelier du diable, où il passe son temps à regarder Fox News et à tweeter. Selon Bob Woodward, le général Mattis explique aussi en petit comité que Trump est un déséquilibré et qu'il a le niveau de réflexion d'un élève de CM2. Trump est furieux, il l'écrit dans une salve de tweets publiée hier et ce matin au réveil. Ce livre est une fiction, une arnaque, des histoires fabriquées. Trump accuse Woodward d'être un agent démocrate. Ce n'est pas le premier livre à éreinter ainsi le président, mais le fait que l'ouvrage soit rédigé par l'un des journalistes les plus reconnus ici aux États-Unis fait évidemment qu'il a beaucoup plus de poids que les livres précédents.
Grégory Phillips, correspondant à Washington, et ce soir, Donald Trump a affirmé à des journalistes qu'il n'avait jamais évoqué l'assassinat de Bachar al-Assad avec le chef du Pentagone, Jim Mattis. Voilà qui ne va pas améliorer les relations entre Londres et Moscou. Le Royaume-Uni vient d'émettre un mandat d'arrêt européen contre deux ressortissants russes, deux hommes soupçonnés d'être impliqués dans l'affaire Skripal. En mars dernier, à Salisbury, l'ancien espion russe Sergei Skripal et sa fille Yulia avaient été victimes d'une tentative d'empoisonnement au Novichok, un agent innervant développé en Russie. Les Britanniques affirment que les deux suspects sont des officiers du renseignement militaire russe. Mais à Moscou, le Kremlin continue à nier toute responsabilité dans cette affaire, Claude Bruyot.
Il faut que les Britanniques cessent leur désinformation et leur manipulation. Le registre n'a pas changé du côté du ministère russe des Affaires étrangères. La diffusion des photoportraits des deux ressortissants russes recherchés n'a rien changé non plus au discours de dénégation. Ces hommes ne nous disent rien, assure-t-on au Kremlin, où l'on rappelle que toutes les propositions officielles effectuées en haut lieu pour collaborer avec les enquêteurs britanniques et occidentaux ont toujours été rejetées. Sous-entendu, si Alexander Petrov et Ruslan Botchirov sont effectivement deux agents qui auraient travaillé pour les services de renseignement militaire russe, le GRU en l'occurrence, qui peut s'attendre à ce que les autorités russes aujourd'hui les reconnaissent comme tels, puisque de l'aveu même des policiers britanniques, ces hommes auraient agi sous couverture. En réalité, tout se passe comme si, 5 mois après une vague d'expulsion de diplomates, le Kremlin se préparait déjà à une nouvelle forme de pression diplomatique internationale.
Claude Bruyot, correspondant en Russie, le Royaume-Uni réclame aussi une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur cette affaire Skripal, réunion qui pourrait se tenir dès demain à New York. L'économie doit s'adapter au changement climatique. C'est l'idée maîtresse développée dans une étude de la Commission mondiale sur l'économie et le climat, un organisme qui rassemble de nombreux experts et décideurs internationaux. Et l'étude qu'il publie insiste sur les bénéfices économiques de la lutte contre le changement climatique, Christine Moncla.
Oui, les bénéfices d'un monde plus vert sont en effet largement sous-estimés, indique ce rapport qui chiffre à 26 000 milliards de dollars le gain pour l'économie mondiale si l'on changeait de focale, si les entreprises, les États envisageaient l'écologie non comme une contrainte, mais comme une plus-value. Alors c'est le troisième rapport de cette commission créée il y a 5 ans à l'initiative de responsables politiques et économiques internationaux et il va toujours dans le même sens, celui d'une économie dite climatique, autrement dit d'une écologie rentable avec le vocabulaire adapté pour convaincre les investisseurs publics comme privés. Et la commission de rappeler que des pistes existent pour des villes écologiques, ceinturées de parkings avec des centres piétonniers, des transports électriques, qu'une agriculture sans chimie, ce ne sont pas seulement des sols plus sains et des animaux sans hormones, c'est aussi toute une politique de santé publique derrière qui en profite, sachant qu'aujourd'hui 700 000 personnes meurent chaque année prématurément à cause de la pollution ou des pesticides. Le coût de l'inaction est et sera de toute façon bien plus élevé si la Terre se réchauffe au-delà du supportable. 100 milliards de dollars seraient nécessaires pour investir dans cette économie climatique d'ici une dizaine d'années. C'est à peine le quart de ce qu'a coûté l'année 2017 en catastrophe naturelle à travers le monde.
Christine Moncla, merci. Invite de ce journal, Laurence Tubiana, présidente de la Fondation européenne pour le climat, ancienne négociatrice française pour l'accord de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je précise que vous venez de co-signer avec une centaine de personnalités un appel à Emmanuel Macron, appel pour un grand programme d'investissement public pour la transition écologique et énergétique. Première question, Laurence Tubiana, le réchauffement climatique entraîne une accélération des catastrophes. Alors, comment l'économie peut-elle s'adapter à cette nouvelle donne ?
Alors, il faut dire que dans le raisonnement économique, et il y a plusieurs façons de le faire, le coût de cet impact du changement climatique commence à être vraiment pris en compte. Alors je crois qu'on ne va pas pouvoir reculer beaucoup plus longtemps, dans la mesure où si on prend toutes les catastrophes qui sont arrivées dans l'été, dans les économies développées, dans les économies en développement et partout dans le monde, on regarde toute la planète a été touchée, ça va se chiffrer en plusieurs milliards de dollars. Et donc il y a donc vraiment un moment maintenant de commencer à regarder très sérieusement le coût de cette inaction. On se souvient que Lord Nicholas Stern avait essayé dans son rapport de 2006-2007 de le mettre en avant. Et c'était un débat avec les économistes qui, à l'époque, lui disaient non, il vaut mieux attendre. Quand on sera plus riche, on pourra faire mieux. Et maintenant, malheureusement, le changement est là. C'est plus dans 10 ou 15 ans, il est déjà ici. Et il faut maintenant mesurer ce coût de l'inaction, ce que font d'ailleurs, évidemment, les compagnies d'assurance et de réassurance, par exemple.
Il y a cet appel que vous co-signez avec de nombreuses personnalités pour libérer l'investissement vert. Vous pensez à l'investissement public ?
Oui, d'une part, mais aussi ce qu'on a besoin de faire, c'est évidemment de faire prendre en compte à l'investissement privé l'impact dans lequel il se dirige en continuant à s'investir dans les énergies fossiles et en accélérant les coûts que cet investissement privé lui-même va subir dans le futur. Donc à la fois, il faut effectivement parier sur de l'investissement public, mais à condition que cet investissement public fournisse les conditions de mobilisation de l'investissement privé. Il faut au fond qu'on fasse résonner ce capital privé, il faut qu'il résonne sur ses coûts, il faut qu'on à la fois on abaisse les coûts de cet investissement privé dans les solutions pour lutter contre le changement climatique, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, le transport propre, etc., les politiques des villes, et donc l'investissement public, il permet de faire diminuer le risque immédiat pour ces investissements privés et changer aussi par la fiscalité, et l'un ne va pas sans l'autre, changer aussi par la fiscalité le coût que représentent ces externalités, enfin cette pratique de financer des activités qui sont dommageables. Je prends l'exemple de peut-être le meilleur de la Suède, qui a fait tout ça, une réforme fiscale profonde et durable, un travail remarquable sur justement l'incitation de l'investissement privé dans les activités économiques, y compris à Lens, ce qui est formidable, y compris dans le secteur de l'industrie lourde. On a maintenant aujourd'hui en Suède la promotion de pilotes de fabrication de l'acier et de l'aluminium zéro carbone. Donc, et la Suède ne se porte pas mal du tout économiquement, si je regarde même, je compare à l'économie française ou l'économie allemande.
Ces investissements verts, de toute façon, doivent tourner le dos aux énergies fossiles.
Absolument. C'est une impasse. Ces énergies fossiles sont une impasse Aujourd'hui, on a vu d'ailleurs que plus de la moitié des investissements dans l'énergie l'année en 2018 ont été vers les énergies renouvelables. Les coûts de ces énergies continuent à baisser de façon continue. Et en même temps, toutes les limites techniques que nous rencontrons encore, le problème du stockage de l'électricité devient de plus en plus mineur parce que les technologies de l'information, les réseaux et un certain nombre de solutions technologiques qui viennent appuyer le développement de ces renouvelables. Donc, y compris en France, l'énergie renouvelable française, elle est moins chère que l'énergie nucléaire aujourd'hui. Donc, il faut aujourd'hui un peu remettre les pendules à l'heure sur les coûts et la manière de représenter ses coûts dans le marché.
Mais l'énergie nucléaire a tout de même l'avantage de ne pas provoquer des gaz à effet de serre.
Bien sûr, et c'est évidemment la seule raison d'être de l'énergie nucléaire, mais elle est devenue aujourd'hui pour toutes sortes de raisons, et notamment deux éléments, la gestion de ses déchets d'une part, et le coût de sécurité de l'autre, puisque les différents accidents nucléaires ont amené, et c'est heureux, à renforcer beaucoup les mesures de sécurité sur les centrales, font que c'est une énergie chère. Alors on l'a, la question n'est pas de la faire disparaître, mais en tout cas de penser qu'il y a un énorme développement en France et ailleurs pour les énergies renouvelables, qui sont encore un peu, caractérisées ou plutôt catégorisées comme des énergies peu sûres, finalement un investissement risqué, alors que c'est plus vrai du tout. Donc il y a une mauvaise représentation aujourd'hui et des potentialités des énergies renouvelables et de leur coût et de leur efficacité. Et c'est ça qu'il faut redresser. C'est une question de perception économique, très largement.
Laurence Tubiana, présidente de la Fondation européenne pour le climat, merci d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir. En France, c'est un nouveau défi pour la Macronie, remplacer François de Rugy à la présidence de l'Assemblée. Le poste n'échappera pas à la majorité, mais on dénombre déjà ce soir 4 candidats. Le favori, c'est Richard Ferrand, le patron des députés LREM. Il aura face à lui 3 candidates, la présidente de la commission des lois Yaël Braun-Pivet, la députée de l'Isère Sandra Motin et l'ancienne secrétaire d'État Barbara Pompili. Karine Bécard, la candidature de Barbara Pompili apparaît comme une véritable menace pour Richard Ferrand.
Écoutez, elle a un joli parcours. Barbara Pompili était déjà députée sous la précédente mandature, donc elle connaît assez bien les arcanes de l'Assemblée. Elle a par ailleurs été, vous l'avez rappelé, secrétaire d'État en charge de la biodiversité. Et aujourd'hui, c'est elle qui préside au Palais Bourbon l'une des 8 commissions, à savoir la commission du développement durable. Donc c'est une militante écologiste, une ancienne d'Europe Écologie Les Verts, une proche du tout nouveau ministre de la Transition écologique, François de Rugy, ce qui ne déplaît pas à une partie des députés de la majorité qui verraient même d'un bon œil l'installation d'écolos à tous les niveaux pour compenser la démission de Nicolas Hulot. En tout cas, face à l'archi-favori Richard Ferrand, il ne faut peut-être pas minimiser trop vite les 3 candidatures féminines parce que 47%, je le rappelle, des députés de La République En Marche sont des députés EES. Et puis parce qu'aussi le vote du candidat au perchoir au sein du groupe de la majorité se fera lundi et à bulletin secret.
Karine Bécard, merci. Face aux 4 candidats de la majorité, seule la députée insoumise Mathilde Panot a pour l'instant fait acte de candidature à la présidence de l'Assemblée. Ce matin, le gouvernement remanié a tenu son premier conseil des ministres avec les 2 nouveaux, François de Rugy à la transition écologique et Roxane Amaracine à nouveau sport. Emmanuel Macron et le premier ministre Édouard Philippe ont appelé leurs troupes à tenir le cap. La semaine prochaine sera marquée par la présentation du plan de lutte contre la pauvreté. Ce sera le 13 septembre. Cette dernière minute en provenance du Japon, un séisme ce soir sur l'île d'Hokkaido dans le nord. Un tremblement de terre de magnitude 6,6 degrés. Pour l'instant, pas de victimes signalées. Le Japon qui vient d'être frappé par le typhon Jebi. Le dernier bilan de ce typhon fait état de 11 morts. Et l'aéroport d'Osaka dans l'ouest du pays est actuellement paralysé. Retour en France avec la météo demain. Un ciel chargé et souvent pluvieux du sud-ouest aux régions de l'est. Ce mauvais temps gagnera les régions méditerranéennes en cours de journée. Sur les autres régions, les éclaircies devraient s'imposer. Les températures minimales de 12 à 20 degrés du nord au sud. Quant aux maximales, elles sont en légère baisse de 19 à 24 degrés en général, jusqu'à 29 degrés dans le sud-est. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Belletto.